Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, voici ce que le catéchisme du Concile de Trente nous dit, enfin dit aux prêtres pour leur prédication en cette fête de l'Ascension. Enfin, c'est plus large que cela, c'est sur l'espérance. Écoutons bien ce que le catéchisme du Concile de Trente enseigne, donc au XVIe siècle. En instruisant les peuples, les pasteurs ne perdront aucune occasion de leur rappeler ces magnifiques récompenses de la vie éternelle. Par ce moyen, ils les exciteront sûrement, non seulement à supporter en qualité de chrétiens les choses les plus difficiles, mais même à les trouver faciles et agréables, et à servir Dieu avec une obéissance plus prompte et plus joyeuse. Nous pouvons bien sûr, mes bien chers frères, appliquer ces belles paroles du Concile de Trente, du catéchisme fait après le Concile, pour l'admirable fête de l'Ascension. Je dis admirable car durant ces trois jours qui précèdent l'Ascension, il y a ce qu'on appelle les rogations, donc la prière de l'Église pour les cultures. Eh bien, durant ces rogations, l'Église fait prier à ses fidèles les litanies des saints. Et quand elle arrive à l'Ascension, elle a ce qualificatif « Per admirabilem ascensionem tuam ». Par votre admirable ascension, délivrez-nous, Seigneur. Admirable. Ce mot est, je vais répéter, admirable. Mirabilis, digne d'admiration. Vous voyez, les mots sont importants. Parfois, il faut décortiquer un peu les mots pour en tirer tout le suc, toute la substance, aller au fond des choses. Car les mots révèlent, disent quelque chose, ou alors on parle pour ne plus rien dire. Admirable, l'admiration. Un enfant devant un tableau, plus encore devant un paysage, la montagne, la mer, un champ, un pommier en fleurs, etc., qui produira des fruits par la suite, eh bien, il est dans l'admiration, il est émerveillé. Sommes-nous toujours émerveillés devant les choses divines, mes bien chers frères? Ou ne sommes-nous pas blasés? Oui, c'est fait. Ça fait tant d'années que nous les célébrons. Donc, une fois de plus, je dis de l'Ascension. Oui, on connaît déjà. Il faut nous ouvrir nos yeux avec des yeux neufs. Et derrière moi, devant vous, vous avez ce si beau tableau de l'Ascension, ce beau vitrail du XIXe siècle. Magnifique. Je n'en connais pas de plus beau. Vous non plus, peut-être. Il est si grand, si expressif. Per admirabilem ascensionem tuam. Tout à l'heure, à la consécration, parfois on baisse les yeux. Peut-être aujourd'hui, levez les yeux. Levez les yeux durant la consécration et au même moment où vous verrez l'hostie et le calice s'élever, vous verrez alors en même temps que cette hostie et ce calice, notre Seigneur Jésus-Christ qui monte au ciel. Ce n'est pas un souvenir passé, c'est réel. Pourquoi le prêtre montre-t-il l'hostie et le calice? Pour que nous élevions nos âmes vers le ciel. Saint Paul dit bien, pour le ciel, notre conversation, enfin le mot latin, conversatio, et ça ne se traduit pas comme j'ai dit, conversation. C'est plus fort que cela. Conversatio in celis est. C'est plus qu'une conversation. C'est un état. Un statut, un établissement, une vie. Notre vie, dit saint Paul, est au ciel. C'est plus qu'un discours. Parce qu'au ciel, que ferons-nous? Je ne peux pas vous en parler. Je n'ai pas l'expérience. Mais nous savons ce que c'est le ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a parlé de ce ciel. C'est la vie de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, restant 40 jours après la résurrection jusqu'à maintenant, l'ascension, de quoi leur parle-t-il ? Du royaume de Dieu, donc l'Église. Mais l'Église, c'est l'antichambre du ciel. Les sacrements, la liturgie nous parlent du ciel. La grâce sanctifiante, c'est le ciel. Donc dès le baptême, l'ancien païen n'est plus païen, il vit de Dieu. Notre vie est au ciel. Pensons souvent au ciel. Pensons souvent à ces réalités pour qu'au jour de notre mort, nous ne soyons pas comme surpris. Nous savons déjà, nous avons médité ces grandes réalités qui évidemment nous dépassent et qui sont bien réelles. Le ciel, l'éternité. Notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, s'élève au ciel, pas seulement avec son âme, comme les bienheureux qui, à leur mort, après le purgatoire, en général, mais nous ne savons pas quand exactement une âme va au ciel, mais elle y va seulement avec son âme, mais là, c'est avec son corps. Il va entraîner, au ce jour de l'ascension, toutes les âmes ressuscitées le soir du Vendredi Saint, puisque l'Évangile nous dit bien que le soir du Vendredi Saint, des rochers se fendirent, le voile du temple se fendit, des corps des saints ressuscitèrent et furent vus dans Jérusalem entre Pâques et l'Ascension. Est-ce que ces saints ressuscités le Vendredi Saint sont morts à nouveau, ont pris possession encore de leur du tombeau où ils étaient? Non. Ils montent au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le ciel est une réalité, est une société. Et il ne convenait pas que notre Seigneur Jésus-Christ soit seul au ciel en corps et en âme. Non, il emporte avec lui tous les ressuscités du calvaire. Et une société. Comme ici-bas, on n'est jamais seul sur une île déserte. Ça n'existe pas. L'homme est un être social. Eh bien, le ciel, c'est aussi une société. Notre Seigneur Jésus-Christ n'attendra pas, façon de parler, l'Assomption de la Sainte Vierge 15 ans plus tard, pour qu'il y ait alors deux corps au ciel. Non, dès l'Ascension, notre Seigneur ressuscite, est monté au ciel, il est ressuscité déjà, bien sûr, et il monte au ciel avec les ressuscités du calvaire. C'est une société. Société de charité. Conversatio nostra in celis est. Notre vie est dans le ciel. Pensons souvent au ciel, mes chers frères. C'est une réalité qui ne nous échappe pas. Une vraie réalité. Ce n'est pas un mirage, une imagination, un placebo ou l'opium du peuple, la religion. Non. C'est la réalité. Nous sommes faits pour le ciel, et la terre, c'est l'antichambre du ciel. La terre n'est qu'un lieu de passage. Pensons souvent au ciel. Il me faut parler des choses bien misérables, bien chers frères, dans nos pauvres jours, où des lois iniques vont à l'encontre du ciel. À l'encontre du ciel. Saint Augustin dit bien ceci. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu, a fait la cité du diable. L'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi, a fait la cité de Dieu, la cité céleste. Les deux étendards de saint Augustin, plus tard au XVIe siècle, c'est la même réalité. Un étendard du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, un étendard misérable, celui de Satan. Et nous sommes dans ces temps d'Apocalypse, on peut bien dire cela. Il y a un an ou deux, ma mémoire fait défaut sur ce sujet-là, l'avortement a été dans la Constitution de notre pauvre pays, fille aînée de l'Église, qui n'est plus la fille aînée de l'Église. L'avortement, légalisé depuis belle lurette, et non dans la Constitution. On peut dire, peut-être, l'avortement, nous ne sommes pas concernés parce que nous sommes vivants. Mais il y a une autre loi qui est non plus en gestation, mais qui a été votée à l'Assemblée nationale avant-hier et qui est prête à être entérinée dans la loi, dans la Constitution, l'euthanasie. Et là, nous sommes tous des potentielles victimes de cette euthanasie. Pas de l'avortement, nous vivons. Mais c'est un péché grave, évidemment. Tu ne tueras pas. L'euthanasie, tu ne tueras pas. Eh bien là, on est tous sujets potentiels de cette horreur. C'est contre le ciel, contre la vie de l'âme. C'est grave. Et voyez, cette cité de Satan s'attaque au ciel dans ces jours de l'ascension. Est-ce un hasard ? Non, ce n'est pas un hasard. Le démon connaît les lois de l'Église. Il connaît les dates de l'Église. Et il attaque la cité de Dieu dans des moments clés. La résurrection, l'ascension. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher à un chrétien, à un catholique, que ces fêtes ? Que ces fêtes ? Dom Marmion dit, dans le Christ vie de l'âme, ou dans ses mystères, l'un ou l'autre, que la fête de l'ascension, à son avis, à son sentiment, est la plus grande fête. Elle dépasse même, dit-il, la résurrection. Pourquoi ? Parce qu'il dit, l'ascension, c'est la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. La glorification. Il prend possession de ce règne. Et à la fin des temps, c'est dans l'Évangile, il va revenir sur terre pour juger les vivants et les morts. De son règne, de son trône, car il siège à la droite de son Père depuis l'ascension. Donc la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apothéose de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai Dieu, vrai roi, vrai homme. Le démon s'attaque aux âmes et au corps. Notre Seigneur dit, le démon est homicide dès le départ. Il est homicide, il tue les âmes, il tue les corps. Eh bien, cette euthanasie, oh bien sûr, on prend des termes bien déguisés, aide à mourir, comme c'est beau, comme c'est suave, aide à mourir. Et c'est quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. C'est lamentable, c'est pervers. Le malade, sans défense, le médecin va lui donner cette piqûre salvatrice, piqûre de mort. Tous ceux qui vont ainsi se suicider volontairement, l'Église a prévu des lois pour leur dire, attention, un suicide volontaire, eh bien vous ne passerez pas à l'Église pour votre enterrement. Vous n'irez pas à l'Église. Et vous serez peut-être inhumés, mais comme des chiens, comme des animaux, parce que vous avez refusé l'éternité. Vous vous êtes donné la mort. Vous êtes donné la mort, c'est grave. Et là, on va faire passer ces choses avec une petite musique. Quelque chose de très suave. Mourir sans douleur. Mais c'est horrible. Et ce n'est pas seulement pour les vieillards, malades, mais c'est aussi pour les handicapés. J'ai vu une courte vidéo cette semaine, la semaine dernière, je ne sais plus trop, ces jours-ci, où un jeune homme veut faire le porte-parole de ceux qui veulent vivre. Il dit, moi je suis condamné par la médecine. J'ai une maladie incurable. C'est un jeune homme qui a 20-25 ans. Je suis incurable. Et je suis... Là, je coche toutes les cases pour cette loi infâme. Je vais mourir. On va me tuer. Parce que je coche toutes les cases d'une maladie irrémédiable. Et moi, je veux vivre. Et je veux me faire le porte-parole de ceux qui veulent vivre et qui n'ont pas encore la parole pour le dire. Et je suis handicapé, je suis paralysé, mais il me reste la parole et toute mon intelligence. Est-il chrétien ? Je ne sais pas. Mais c'est un homme. Il veut vivre. Il a une âme. Il veut vivre. Il veut se battre jusqu'au bout. Et être le porte-parole de ceux qui ne peuvent pas parler. Quel panache, quelle beauté. On voyait les journalistes qui pleuraient. Parce qu'on est tous concernés par cette chose. La cité du diable. Le démon est homicide Et ça va avec le... C'est une contre-ascension, c'est un contre-ciel, une contre-église, la franc-maçonnerie. Et le triste président de la République qui fait le tour du monde en ce moment, comme d'habitude, pour pavaner, etc., eh bien, il est tout à fait favorable. Il dit, ça fait 3 ans qu'on travaille à ce sujet-là, depuis 2022, on va y arriver. Ils vont y arriver. Ce sont des monstres. Ce sont des monstres. Des âmes de damnés. Des âmes de damnés. Prions pour leur conversion. Parce qu'autrement, ils vont rôtir. Et ils n'auront pas d'avocat, ni d'avocate Notre-Dame, pour supplier le bon Dieu d'être favorable, d'être miséricordieux à leur égard, tous ces monstres qui font ces lois iniques. Mes chers frères, revenons à cette ascension. Mais encore quelque chose d'important. Le 27 mai, Léon XIV vient de mettre un évêque ou un prélat, je ne sais plus. Est-il prélat, est-il évêque, je ne sais pas. En tout cas, c'est un monseigneur. Monseigneur Renzo Pegoraro, président de l'Académie pontificale pour la vie, on veut dire pour la mort. En effet, en 2022, ce prélat romain a justifié le suicide assisté comme un moindre mal. Un moindre mal. Non, c'est un mal intégral. Un mal intégral. Eh bien, cet homme-là, est le 27 mai, on est le 29, ça fait 2 jours, il est mis par le nouveau pape, préfet, président de cette académie pontificale pour la mort, pour la vie, entre guillemets, entre pointillés. Donc l'avortement, l'euthanasie, on des censures, tu ne tueras pas, avant la naissance et durant la vie, tu ne tueras pas. Ce précepte est intangible, sauf la peine de mort, pour ceux qui la méritent, pour ceux qui déméritent la vie. Et la peine de mort, dans nos pauvres pays aussi, est abolie, quoique, avec cela, on la remet vraiment en fonction. Mais c'est déguisé, avec une petite musique. Mais cette musique n'est pas celle de Dieu, c'est la musique du diable, mon bien chasseur. Donc il faut avoir des convictions, des notions claires et précises, et dénoncer le mal. Prier pour les pécheurs, c'est entendu. Mais dénoncer le mal, c'est ce que l'Église a fait à temps et à contre-temps. Saint Paul le disait à ses disciples, Timothée et Tite, insiste, prêche la parole à temps et à contre-temps. Car viendra un jour où il y aura des faux docteurs. Notre Seigneur parlait de cela, des mercenaires, il y a quelques dimanches, habillés en peau de brebis, mais ce sont des loups ravageurs, et le démon est homicide. Prions notre Seigneur Jésus-Christ, mes chers frères. Et comme le dit bien la collecte de ce grand jour, de cette fête d'obligation, l'ascension, que nos âmes habitent le ciel. Habitent le ciel. Il est temps aussi de batailler, d'éclairer les intelligences autant qu'elles peuvent encore être éclairées, car bien des intelligences sont complètement enténébrées, des yeux fermés, des oreilles sourdes, des intelligences qui ne réfléchissent plus, qui ne peuvent plus réfléchir. L'intelligence, disait Marcel de Corte dans un livre excellent, il y a plus de 50 ans, puisque Marcel de Corte est mort en 74, eh bien, Marcel de Corps disait, il écrivait ce livre, « L'intelligence en péril de mort ». S'il écrivait de nouveau un livre, mais il est mort, eh bien, il dirait ceci, « L'intelligence n'est plus en péril de mort, elle est morte ». Sauf chez nous, bien chers frères, remercions le bon Dieu d'avoir notre intelligence aiguisée, qui peut réfléchir. C'est une grande grâce aujourd'hui de pouvoir encore réfléchir, de pouvoir dire A plus B égale C. C'est tout bête, hein? Mais ça, c'est une réflexion. A plus B égale C, c'est une réflexion. Il faut commencer par le B à bas. Ça aussi, c'est une réflexion, le B à bas. On en est là. Mais il faut tout reconstruire, parce que c'est un vaste désert, un cataclysme dans les intelligences, dans les volontés, dans les âmes. On ne pense plus au ciel, on ne pense plus aux réalités essentielles, l'éternité. Pensons à notre éternité. Prions aussi pour ceux qui se préparent à une mauvaise éternité, une éternité de damnation. Notre Seigneur le dit bien dans l'Évangile. Les justes ressusciteront pour la vie et les damnés ressusciteront pour leur perte. L'ascension nous fait penser à cela. Nous ressusciterons avec notre Seigneur Jésus-Christ et nous serons glorifiés comme lui pour le ciel, pour l'éternité. Les damnés ne le seront pas. Ils ressusciteront, mais pour leur condamnation. Les élus, prions pour en faire partie, prions avec beaucoup d'humilité, de constance, de persévérance, avec la Vierge Marie, qui bien sûr veille sur les âmes qui lui sont consacrées. Pensons après-demain, c'est Notre-Dame Marie, reine, reine des âmes, et demain Sainte Jeanne d'Arc. Prions cette sainte de la patrie, Sainte Jeanne d'Arc, qui guerroyait, qui pensait souvent au ciel. Elle faisait confesser, elle recommandait la confession aux soldats avant la guerre, parce qu'ils pouvaient mourir. Donc elle pensait au ciel, Sainte Jeanne d'Arc. Elle pensait au ciel. Et beaucoup sont morts. Mais avec la confession, la communion, ils sont montés au ciel. Ils ont été des sauvés. Donc prions en cette grande fête de l'Ascension, la Vierge Marie, de donner une âme ardente, un cœur généreux, une espérance vive, ferme, pour penser souvent au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.